Seigneur notre Dieu, nous tenons devant toi par la seule grâce de Jésus. Merci pour celui qui est mort pour chacun de nous et nous pouvons t'adresser la parole et nous confier en toi, faire de toi notre refuge. Parce que toi, le Dieu de gloire, tu t'es abaissé, tu t'es humilié. Et nous te rendons grâce, nous aurons toute l'éternité pour glorifier ton nom, Seigneur. Et je veux vraiment implorer ta grâce, Seigneur. Me faire tout petit devant toi, pour que tu puisses te faire tout grand devant nous. Comme Jean-Baptiste, Père, je veux te demander la grâce pour moi-même, mais pour chacun de nous ici présents ce soir. Qu'on puisse diminuer pour que tu puisses grandir. Que tu trouves le chemin de nos cœurs. Pour que ce ne soit pas une parole d'homme que nous puissions entendre, mais la parole qui vient de toi, Seigneur. Viens nous bénir, Père de gloire. Et viens nous assister de ta grâce. Nous supplions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3, et je lirai à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » Voilà mon nom de génération en génération. Dieu se présente comme le grand Je suis à Moïse, qu'on a traduit par l'Éternel. C'est à peu près au temps de la Réforme que le premier homme qui s'appelle Pierre Robert Olivetan, qui a traduit la parole de Dieu en français sur les textes hébreux et grecs, qui a choisi ce nom l'Éternel. Parce que en hébreu, c'est quatre lettres, yod, e, vav, e. Et la racine de ce mot, c'est le verbe être. Et ça veut nous dire qu'il y a seul Dieu est. En hébreu, je ne peux pas dire je suis Olivier. Je m'appelle Olivier, je vais dire Annie Olivier, je Olivier. Le verbe être, il n'existe pas, il n'existe que pour Dieu. Lui seul est. Seul par lui tout existe, seul par lui ce monde dans lequel on vit, l'oxygène que l'on respire, est encore là dans sa grâce, ce soir, par lui seul, on peut se tenir assis et moi debout devant vous. Il est le Dieu qui est, dans ses verbes être, et il y a aussi cette notion qu'il est le Dieu qui était, il est le Dieu qui est, et il est le Dieu qui vient. Et si je vous dis ceci, c'est pour nous aider à comprendre quelque chose qui me paraît capital et vraiment important. Et c'est ceci, l'Éternel, ce Dieu qui s'est révélé à Moïse. Il est le Dieu de notre salut, il est le Dieu de notre délivrance, il est le Dieu de notre guérison. Et ça, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de puissant, que ce Dieu saint, séparé de tout dans sa gloire, il puisse venir dans nos cœurs pour nous racheter, pour agir par son esprit dans nos cœurs. C'est quelque chose de grand et de puissant. Mais ce Dieu, il est aussi le Dieu de l'histoire. Et c'est ce que j'aimerais vous partager un petit peu ce soir. Il est le Dieu qui était, il est le Dieu qui est, et il est le Dieu qui vient. Ce Dieu, en plus de nous sauver de manière personnelle, il a un plan dans l'histoire des hommes. Il a un plan dans toute l'histoire des hommes, il a un plan pour cette terre. Il a agi dans l'histoire des hommes et il va encore agir sur cette terre. Et vous savez qu'Israël a été choisi pour être, on pourrait dire, le baromètre, pour être l'instrument central de l'action de Dieu dans l'histoire. C'est pourquoi, s'il est l'Éternel, et c'est son nom pour l'éternité, comme on vient de l'entendre, il est aussi le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui est devenu Israël. Parce que Dieu n'est pas resté dans sa gloire éternelle, Dieu est venu agir parmi les hommes, et pour ça il a choisi un peuple et il a choisi une terre. Et son nom à ce peuple et à cette terre, c'est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu, l'Éternel, qui était, qui est, qui vient. Il est le Dieu qui agit dans l'histoire des hommes, en particulier au travers d'Israël. Il a agi dans le passé, il est toujours en train d'agir, et on va le voir de nos jours, et il va agir dans le futur, et son retour est proche. Son action la plus puissante, la plus tangible, la plus forte, depuis que le monde existe, elle vient bientôt. Et je prie que cette prédication nous en donne une conscience aiguë. Dieu agit dans les cœurs, mais retenons que la Bible, c'est un livre historique. Vous savez, il y a plusieurs formes de discours dans la Bible. Il y a les prophéties, il y a les lois, les instructions, il y a les prières, il y a les livres de la sagesse et il y a les livres historiques. Et dans la Bible, il y a 50%, ça veut dire la moitié de la Bible, c'est de l'histoire, c'est des récits historiques. Parfois, on parle d'un Dieu comme s'il était dans les nuages ou qu'il était, bien que ce soit grand, que spirituel dans nos cœurs. Mais la Bible, c'est un récit historique d'un Dieu qui agit sur la terre. Par Abraham, il est passé dans son feu au milieu des animaux. Il a ouvert la mer Rouge. Le peuple d'Israël est passé à pied sec. Il agit à travers les juges en Israël, par sa main puissante. Il agit au travers des rois, au travers des prophètes. Il est le Dieu qui agit sur la terre des hommes, dans le naturel. Pas que dans nos cœurs, mais dans l'histoire. Et il a un plan pour ta vie, il a un plan pour ma vie, mais il a aussi un plan pour cette terre, pour tous les habitants du monde, et je veux dire, qu'ils soient croyants ou pas, c'est la même chose. Dieu vient sur cette terre pour agir. Et il va agir selon sa volonté, et il va établir son règne. Alors ce plan de Dieu, c'est ce dont j'aimerais vous parler un petit peu ce soir. Ce Dieu qui était, qui est, qui vient, et c'est quelque chose, je le répète, de concret, de réel, pas simplement de spirituel. Et ça, c'est une conscience capitale qu'on doit avoir, surtout parce qu'on a vu déjà beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, des récits historiques qui se sont déroulés dans le passé. On a des prophéties dont on va en lire certaines, qui étaient annoncées il y a plus de 2000 ans et qui se passent sous nos yeux, sur cette terre, en particulier en Israël, mais aussi dans les nations. Et ce Dieu qui agit par le passé, qui agit aujourd'hui, tout ce qu'il a prophétisé, parlé au travers de ses prophètes, c'est des choses qui vont s'accomplir et dont on doit absolument avoir conscience pour ensuite se comporter d'une manière digne de ce Dieu saint, d'une manière digne de ce grand Dieu qui nous fait grâce d'être sauvés. C'est une grande chance de nous sauver, mais c'est quelque chose d'encore plus grand et plus puissant que de savoir que notre salut personnel, il s'inscrit dans toute une fresque de l'histoire. Dieu, depuis le début, il a préparé ce salut et il va l'accomplir à la fin des temps. C'est pas, comme on pourrait le dire, quand bien même c'est grand, simplement mon salut à moi, ce que je vis à moi, mes guérisons à moi, même si je crois en l'importance de la guérison, en l'importance du baptême du Saint-Esprit, en l'importance de tout ce que Dieu a donné pour son Église. Mais sachez que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Elle soupire dans les douleurs de l'enfantement, comme nous dit Paul au chapitre 8. Donc, le salut du Dieu de la Bible, il s'étend à toute la terre, et pas simplement à nos cœurs, ou même à votre assemblée, ni à la nôtre, il s'étend sur la terre entière. Et c'est ça qu'on doit contempler, qu'on doit chercher, en étant des hommes et des femmes de prière dans le lieu secret, pour que Dieu nous révèle tangiblement cet agir qui vient sur cette terre, et qui prépare nos cœurs. Et donc, j'aimerais vous parler en quelques mots, parce qu'il faudrait des heures, voire même des jours, pour parler de ce plan du salut, pour nous donner une vraie conscience. Mais j'aimerais simplement poser quelques petites bases et ensuite donner peut-être deux paroles d'exhortation pour dire, au regard de cet agir de Dieu, de ce plan de Dieu, comment est-ce que nous, tant pour des incroyants qui ne se sont pas encore engagés pour le Seigneur, que nous qui avons Jésus pour refuge, comme on l'a entendu, quelle attitude on doit avoir vis-à-vis de ces choses? Il y a plusieurs paroles que j'aimerais appuyer, qu'on lise ensemble, mais on va essayer d'aller assez vite. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire qu'il est, on l'a vu, le Dieu qui était. Avant que le monde ait été créé, il était dans sa gloire. Jésus, par lui, tout a été créé, par lui et pour lui. Et il était avant Abraham, il était même avant ce monde. Donc Dieu était et il a créé, il est le créateur du ciel et de la terre. Quand on palpe un peu la puissance de ce grand Dieu créateur, on n'a pas de problème à croire qu'il est celui qui a créé. Aujourd'hui, on parle d'évolution, on voudrait nous faire croire qu'on descend du singe. Mais Dieu est le Tout-Puissant qui, comme une étincelle, a fait venir la lumière, a fait exploser ce Big Bang avec une puissance telle que la vie est apparue et que tout est aussi parfait sur notre terre qu'on peut respirer, qu'on peut grandir. On est tous là à respirer. Et d'où ça vient ça, qu'on puisse respirer comme ça? D'où ça vient? J'ai mon épouse qui a accouché il y a quelques jours. Comment l'enfant a pu grandir dans son sein? D'où sont venues ces contractions pour que l'enfant puisse sortir et venir à la vie? Dieu est celui qui tient tout en main. Il est le Créateur parfait. Il est le Tout-Puissant. Et Dieu a créé l'homme et il nous est dit qu'il l'a créé à son image et que Dieu était avec l'homme. Vous lisez ça dans la Genèse, l'Éden. C'était l'homme, mais aussi toute la création qui était, on pourrait dire, en communion, en harmonie avec le Dieu vivant. Et ce qui s'est passé, vous le savez très bien, il y a eu la chute. Et la chute, vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Et il est bon de se rappeler que la chute, c'est quelque chose de terrible pour l'homme, mais aussi pour toute la création. Dans la sagesse de nos pères, la sagesse juive, on pourrait dire, hébraïque, cette brisure du monde, on parle de la brisure du monde, c'est quelque chose de terrible. L'homme qui s'est séparé de Dieu, toute cette création, cette nature qui était en communion avec Dieu, elle est aujourd'hui déchue par la chute. On est séparé de Dieu, on est pécheur. Vous savez mieux que moi qu'un enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre à mentir, on a besoin de lui apprendre à dire la vérité. Comme le dit David, « Je suis né dans le péché, pécheur ma mère m'a conçu ». On est séparé de Dieu, on a une chair qui nous pousse au péché, une convoitise des yeux qui nous pousse au péché, l'argent, la chair. Il faut oser parler de ces choses même, la sexualité, en particulier pour les jeunes. Aujourd'hui, on est poussé au péché et on est esclave, comme le dit Paul, de cette nature. Et ça, c'est quelque chose de terrible face au Dieu saint. Parce que Dieu est parfaitement saint. Il sied dans la sainteté. La justice et la droiture sont la base de son trône. Et on est déchu, on est perdu. Et s'il ne se passe pas quelque chose en nous pour être vraiment recréé, pour avoir une vraie repentance, c'est-à-dire se détourner de nos péchés, pas simplement demander pardon, mais faire demi-tour et lâcher ce péché, couper nos mains, arracher nos yeux au péché pour marcher dans la sainteté. On est perdu, on est sous la colère de Dieu parce qu'on est des fils d'Adam et ça c'est inscrit dans notre nature. C'est comme ça, personne ne peut le nier, qu'on est poussé au péché. Et l'homme ayant chuté, vous savez qu'il y a eu le déluge avec Noé qui a été trouvé juste. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu, les hommes s'étaient répandus sur la terre. Et quand le déluge est venu, il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Alors on a eu le déluge, Noé qui est rentré avec sa famille dans l'arche. L'arche qui est une image de Jésus, qui est l'arche de l'Alliance, qui est notre arche, qui est notre seul moyen de salut. Et ensuite, de Noé, son fils qui s'appelle Sem, vous connaissez les Sémites, l'antisémitisme, c'est la descendance de Sem qui a donné Abraham. D'Abraham est venu Isaac, Jacob. Dieu a pris Abraham de l'idolâtrie. Son père était un prêtre idolâtre. Il l'a pris de l'idolâtrie. Il a saisi Abraham pour une seule chose. Et ça, c'est tout ce qu'on a au travers de la parole de Dieu. Le but de Dieu, c'est de restaurer son règne sur la terre. Et si vous pouviez retenir ça pour bien comprendre la suite de ce que je vais dire. Toute la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient, qui choisit un peuple, une terre, pour restaurer son nom dans le cœur des hommes, mais sur la terre entière. Il veut faire d'Israël une lumière pour toutes les nations. Pas que pour Israël, moyen de salut et de lumière pour toutes les nations. Et le but de Dieu, c'est de restaurer son règne sur toute la terre, dans nos cœurs et sur toute la terre. Et donc, pour ça, il prend Abraham, il en fait un peuple qui commence à multiplier en Égypte. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Et ensuite, comme démarre le livre de l'Exode, on a un peuple qui est dans la servitude. On a un peuple qui est oppressé. C'est une image, on sait que Paul dit, tout ce qui est arrivé à nos pères a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et cette instruction, c'est qu'ils étaient en Égypte, le symbole du monde, le symbole du péché, le symbole de l'oppression, de l'antichrist. Ça veut dire, c'est Christ, qu'est-ce que c'est? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'antéchrist, c'est mon moi qui continue de vivre. C'est l'orgueil de l'homme qui continue de vivre avec toutes ses convoitises. Alors ce peuple, il était en Égypte. Et je vais aller très vite sur ce plan de salut. Mais pour vraiment donner les points qui me paraissent essentiels. Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Et il lui a donné la loi, la Torah, c'est-à-dire l'instruction vivante. Il a fait alliance avec lui pour l'amener en terre promise. Si, alors que le sang avait été mis sur les linteaux des portes, vous connaissez l'agneau pascal, c'est pour ça qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu. La Pâque, c'est avant tout la Pâque des Israélites qui étaient en Égypte et ils ont mis le sang sur les linteaux qui faisait d'ailleurs une forme de croix avec de l'hysope qu'on retrouve à la croix, notamment dans l'évangile de Jean. S'ils s'étaient contentés de mettre le sang, effectivement l'ange exterminateur ne serait pas passé pour tuer tous les premiers-nés. Mais ils devaient manger cette Pâque avec le bâton prêt à partir. Et ils ont dû sortir d'Égypte. S'ils n'étaient pas sortis de leur maison, qu'est-ce qui se serait passé? L'Égypte, tous les Égyptiens leur seraient tombés dessus et ils seraient tous morts. Pas que les premiers-nés, ils seraient tous morts. Voilà pourquoi on est appelé à mettre le sang de Jésus sur nos cœurs. Mais ensuite, il te faut sortir. Il te faut sortir de la chair, il te faut sortir du monde, il te faut sortir du joug du diable pour marcher dans ce désert en vue de la terre promise. Alors comme ils sont passés dans la mer Rouge, ainsi en est-il de notre engagement du baptême, on passe par les eaux du baptême pour nous engager à suivre et à servir Dieu. Mais il faut que Dieu plante, comme vous l'avez marqué là, Proverbe 14, 27, la crainte de l'Éternel, pour qu'elle soit une vraie source de vie dans nos cœurs. Parce que vous savez, malheureusement, des fois on peut devenir presque fou en lisant les Écritures. Malgré l'agir puissant de Dieu parmi son peuple, lisez l'Exode, les Nombres, que de miracles Dieu n'a pas fait, combien il a montré sa puissance. Et malgré tous ces miracles, le peuple a murmuré. Et s'il n'y en a que 8 qui ont été sauvés au temps de Noé, eh bien il n'y a que Caleb et Josué qui sont rentrés en terre promise. Vous rendez-vous compte que même Moïse n'est pas rentré en terre promise parce qu'il n'avait pas obéi parfaitement aux ordres de l'Éternel. On a un Dieu saint et avec amour et humilité, j'aimerais nous exhorter ce soir à le craindre pour marcher dans la sainteté, pour être gardé pour ces choses qui viennent sur ce monde, pour qu'on soit de ces 8, pour qu'on soit de ces Caleb et Josué, pour qu'on ait l'esprit de Caleb et Josué. Quand bien même ça peut paraître dur, ça peut paraître difficile, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on a la puissance en lui de crucifier la chair, que le monde soit crucifié pour nous et qu'on soit crucifié pour le monde et qu'on soit acquis à Dieu. On est sauvé, on est de nouveau pour rentrer dans la sanctification. La sanctification, ça veut dire d'être mis à part pour Dieu. On est sauvé pour Dieu, pour rentrer en terre promise, pour célébrer sa gloire. Épître aux Éphésiens nous dit de célébrer la grâce qu'on a reçue dans le bien-aimé parce qu'on est appelé avec ce sceau du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage à célébrer sa gloire. On n'a pas Jésus simplement pour être sauvé, pour aller au paradis ou pour échapper à l'enfer. On est sauvé en Jésus pour adorer Dieu, pour donner gloire à Dieu, pour donner gloire à son nom. Et c'est tout ce qu'il doit y avoir dans nos cœurs. On n'est pas sauvé pour nous, on est sauvé pour lui, parce que ce monde a été créé pour lui. Et si on a chuté à cause de notre désobéissance, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour et ce Dieu de grâce, tout au long de l'Écriture, est venu pour nous restaurer et nous planter avec lui dans son règne, sur cette terre puis pour l'éternité. Donc vous voyez cette image, Dieu a choisi ce peuple en Égypte, il l'a fait sortir de l'Égypte, marcher dans le désert. On marche dans un désert, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas encore dans la terre promise. On est dans la tribulation, comme le dit l'apôtre Jean au début de l'Apocalypse. Il dit « Moi qui ai part avec vous à la tribulation ». Paul le dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils doivent se préparer à souffrir. C'est pas facile, c'est un désert. Et la crainte de ce Dieu pour lequel on est fait pour sa gloire, elle est la vie en nous. Elle est cette source d'eau vive, la même qu'ils avaient dans le rocher, dans le désert. Et donc, Dieu a sorti ce peuple d'Égypte pour le planter en terre promise. Retenons, le peuple était dans le péché, il était captif. Dieu l'a sorti pour le planter en terre promise. Et il y a eu le temps des juges, il y a eu le temps des rois, et on a là un premier accomplissement avec le roi David. Le roi David qui a étendu les frontières presque exactement comme Dieu l'avait prophétisé, l'avait dit à Abraham. Mais ensuite, vous savez ce qui s'est passé. On a là, si vous voulez, le premier enseignement clair de cette histoire, de ce plan de salut de Dieu, comme je vous en ai parlé. Un peuple choisi, sorti d'Égypte, planté en terre promise, avec un roi à sa tête qui règne sur toutes les frontières d'Israël, et son fils Salomon qui va bâtir le temple. Dans la racine du mot Salomon, il y a la paix, Shlomo, Shalom. Il est une image de ce règne de paix que Dieu veut instaurer sur la terre. Malheureusement, vous connaissez ce qui s'est passé, vous lisez le livre des rois, à part quatre rois, tous les autres rois, que ce soit les rois de Juda ou les rois d'Israël, ont été dans le péché. Ils sont tombés. Et après Salomon, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, le royaume du sud, qui est le royaume de Juda, et le royaume du nord, qui est le royaume d'Israël, a été scindé en deux. Il y a eu deux rois. Et au sein même de ce peuple que Dieu avait appelé pour être un, lui qui est un, pour donner sa lumière à toutes les nations, eh bien, on a eu une division. On a eu deux peuples, l'un contre l'autre, et ça a amené tout d'abord pour Israël, le royaume du Nord, en 721. Il y a le royaume d'Assyrie qui sont venus les déporter en Assyrie en 721. Puis en 586, c'est Juda, par le roi de Babylone, qui a détruit le temple et qui les a emmenés à Babylone. Et là, vous voyez, pour tout Israélite qui était instruit dans la foi de ses pères, c'est comme si tout était fini. Si tout était tombé, et ils ont crié à Dieu. Ce Dieu de miséricorde, en 538, il a ramené le peuple sous Esdras et Néhémie. On lit ça dans les livres d'Esdras et Néhémie, assistés des prophètes Agée et Zacharie, qui les encourageaient à rebâtir le temple. Donc de nouveau, ils étaient à Babylone, pris dans la Syrie, comme avant ils étaient en Égypte. Et Dieu, par sa main forte, les retire de ces peuples. Et ça, c'est pas quelque chose de spirituel. Oui, bien sûr, c'est spirituel, c'est un agir de Dieu, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Le peuple d'Israël, il était en Égypte. Là, il était bien à Babylone. Il y a bien Cyrus, vous lisez ça dans Ésaïe, qui a fait un décret pour dire que tout juif revienne à Jérusalem pour rebâtir le temple. Et ils sont revenus, et ils ont rebâti le temple. Et vous savez pourquoi ils devaient rebâtir le temple? De la même manière qu'ils sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, il devait sortir de Babylone pour recevoir le Messie, pour recevoir Jésus, qui allait, comme il le dit lui-même, instaurer le royaume des cieux dans leur cœur. Instaurer le royaume de Dieu dans leur cœur. Le royaume est tout près de vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous dit Paul. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, j'aimerais, pour encore poser une dernière base sur ce plan de salut, vous dire que bien qu'une partie du peuple d'Israël est restée dans l'endurcissement quand Jésus est venu, eh bien, on sait que cela était pour nous, pour que ce salut puisse s'étendre à toutes les nations, on va le voir. Et vous savez que dans la sagesse hébraïque, les sages d'Israël voyaient deux venus du Messie. Ils voyaient le Ben Yosef, ça veut dire le fils de Joseph, et le Ben David, le fils de David. Ils voyaient deux venus. Le Ben Yosef, vous connaissez l'histoire de Joseph, qui a été jeté tout au fond de la citerne, humilié, mais que Dieu a élevé sur toute l'Égypte. Ainsi, Jésus est venu. Il s'est humilié plus bas que terre. Lui, Dieu qu'il était, il a pris notre condition d'homme, d'esclave. Et il s'est donné à être crucifié pour nos péchés. Et vous savez notamment pourquoi. Un des pourquoi. Le peuple d'Israël n'a pas reconnu dans sa totalité Jésus. Vous lisez dans les Actes des Apôtres qu'il y a une foule de sacrificateurs qui l'ont reconnu. Je crois que ce n'est pas juste de dire Israël n'a pas reconnu le Messie. Parce qu'il y a une grande partie qui l'ont reconnu. Si Paul, par exemple, ne l'avait pas reconnu, le salut ne serait pas parvenu aux nations. Mais une des choses, deux choses, je vais vous dire, qui a fait qu'Israël n'a pas en totalité reçu son Messie comme le Ben Yosef, c'est un, parce qu'il a été trop humble. Parce que c'est une folie et on aura toute l'éternité pour rendre gloire à Dieu pour ça. Ce Dieu de gloire qui a tout créé, qui maintient l'univers. Vous savez, notre petite terre, elle est comme un grain de sable presque dans le système solaire. Et le système solaire, il est comme un caillou dans cette cour, dans toute la galaxie. Et des galaxies, il y en a des milliards, on ne peut même pas les compter. On n'est rien dans l'univers. On n'est absolument rien dans l'univers. Et ce Dieu qui a tout créé, qui permet que tout ce système solaire, toutes ces galaxies marchent ensemble, tout ça c'est l'ouvrage de ses mains. En 6 jours, vous rendez-vous compte de la puissance de ce Dieu. Il s'est humilié. Il a pris notre condition. Et ça, vous voyez, pour des Juifs qui ont conscience de la sainteté de Dieu, ce nom l'Éternel dont je vous ai parlé, Yod et Vav et, il le remplace par Adonai, parce qu'il ne le prononce même pas, tellement il est saint. Alors, ce Dieu, parce que Jésus, Yehoshua, Yeshua en hébreu, ça veut dire Yod et Vav et, sauve. Il n'y a pas d'autre Dieu, comme le dit Ésaïe 43. C'est moi qui ai sauvé, c'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai agi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alors Jésus, qui veut dire, avant d'être passé par le grec, Jésus, ça veut dire Yehoshua, ça veut dire Yod et Vav, ce grand Dieu, je suis, sauve. Ça, de sauver en devenant esclave, c'est pas recevable. Tellement Dieu s'est humilié pour nous. C'est une des choses qui a fait que c'était trop pour eux, dans la conscience qu'ils avaient de Dieu. Vous voyez. Mais une deuxième chose, c'est que ce peuple, ils attendaient plus que tout le Ben David. Ils attendaient le fils de David, celui qui allait venir les délivrer. Parce que quand ils sont revenus de Babylone, ils étaient sous un joug, ils n'étaient pas libres, ils n'avaient plus de roi. Ils n'avaient plus de roi. Et depuis l'exil de Babylone, le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé d'attendre et de soupirer après le Messie, le fils de David, qui allait venir pour régner sur cette terre, selon les prophètes, pour régner depuis Jérusalem, depuis Israël, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi ce Ben Yosef a peut-être eu de la peine à être reconnu. Alors, voyez-vous, on a vu l'Égypte, sortie d'Égypte, pour être planté dans la terre promise, on a un accomplissement avec David et Salomon de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, mais sur cette terre. Ensuite, parce que le peuple a péché, le peuple est parti en captivité par les Assyriens, les Babyloniens. Mais Dieu, de nouveau, ce peuple qui était dans le péché, Babylone est un symbole du péché, de l'orgueil de l'homme, il l'a sorti de Babylone pour le ramener à Jérusalem. Et pourquoi ? Pour reconstruire le temple, afin que le Messie vienne. Et maintenant, on attend un troisième retour. Et on ne l'attend plus parce qu'il s'est déjà passé sous nos yeux. Et j'aimerais parler un petit peu de ça dans une deuxième partie. Et si vous voulez prendre avec moi, Actes chapitre 1. Les Actes des Apôtres, chapitre 1. On sait, la parole de Dieu nous dit que Jésus devait venir 2 fois. Alors on lit le premier verset, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est l'évangéliste Luc qui parle, et c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres aussi, donc il avait écrit son évangile, son premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Vous entendez ? Jésus, tous les évangiles, c'est ce qu'il a commencé à faire. Mais il y a quelque chose qui vient, et dont on doit avoir conscience, et qui est très important. Et il dit, et d'enseigner. Donc tout ce qu'il a commencé à faire et qu'il a commencé à enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, une fois mort et ressuscité, il leur a parlé des choses qui concernent ce royaume. Ce royaume que Dieu avait instauré en David, qui voulait réinstaurer en Jésus, mais il y avait un plan de Dieu dont on va parler pour que ce royaume ne s'instaure pas tout de suite lors de la première venue de Jésus. C'est pourquoi vous voyez dans les évangiles que Jésus file comme ça. Il part dans la montagne parce que tout le monde voulait le faire roi. Pourquoi tout le monde voulait le faire roi ? Parce que c'était clair, comme c'est clair aujourd'hui dans le peuple d'Israël. Ils attendaient le Messie pour qu'il règne, qu'il les délivre de tout joug, et qu'il règne avec puissance et autorité, et qu'il instaure son règne de paix. Alors voyant Jésus faire des miracles, attester qu'il était lui-même le Messie, ils voulaient le faire roi. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et vous allez voir comme les apôtres en avaient conscience. On lit au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Voyez ce que les apôtres demandent à Jésus ressuscité. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus était mort pour eux, il était ressuscité, il leur était apparu glorieux, et il lui pose la question, est-ce en ce temps, maintenant que tu es ressuscité, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc c'était une chose claire, et cette chose, on l'attend aujourd'hui, frères et sœurs. Alors voilà ce que Jésus va répondre. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et vous ne pouvez pas savoir, vous, donc les apôtres à qui il parlait, quand ça va se passer. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pouvez pas savoir, vous, quand. Donc, on voit bien que Jésus dit, je vais rétablir le royaume d'Israël. Mais vous ne pouvez pas savoir le temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins, comme l'avait prophétisé Ésaïe, que de Sion sortirait la Torah vivante, transfigurée par le Messie, à Jérusalem, en Judée, le désert de Juda, où Jésus avait commencé son œuvre, Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Car Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On sait que cette scène, elle était sur le mont des Oliviers, qu'il est monté sur les nuées, et le prophète Zacharie, au chapitre 14, nous dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Israël. Je peux vous assurer que quand vous êtes sur ce mont des Oliviers, vous avez peut-être déjà vu des photos, vous avez peut-être déjà pu y aller. Sur le mont des Oliviers, c'est une colline, et il y a des centaines et des milliers de tombes. C'est un cimetière. Pourquoi ? Parce qu'Israël, comme je vous le disais, depuis les temps anciens, j'aurais envie de dire, il attend le retour du Seigneur et il sait qu'il sera la résurrection et la vie et qu'il instaurera son règne. Voilà pourquoi, par une foi concrète, une foi réelle et pas que spirituelle dans leur cœur, mais la conscience d'un agir de Dieu dans l'histoire, ils veulent tous se faire enterrer sur cette montagne des Oliviers pour être les premiers à ressusciter avec le Messie et à rentrer dans son règne. Vous voyez, on veut se poser maintenant la question, quand est-ce qu'il reviendra? Jésus a donné des paroles claires pour que nous puissions, en particulier nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, savoir quels sont les signes, et en particulier le signe que le Seigneur revient bientôt, pour, après avoir instauré son royaume dans le cœur des hommes jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il puisse le planter dans son peuple, dans le reste de son peuple d'Israël, et que de Sion, avec nous tous qui aurons reçu ce royaume dans nos cœurs, on puisse régner avec lui. C'est ce qu'on appelle dans le jargon évangélique le millénium, le règne de 1000 ans, comme on le lit dans l'Apocalypse, qui est quelque chose de clair pour tout juif pieux, ce règne messianique dont nous parlent les prophètes, où le loup paîtra avec l'agneau, où l'Éden, si vous voulez, sera restauré. Cette communion qu'on avait au début, elle sera restaurée sur toute la terre. Paul, quand il dit « la création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu », il veut dire « il attend que vous ressuscitiez de ces tombes quand le Messie posera ses pieds sur le mont des Oliviers et qui transfigurera cette terre, qui va être ébranlée, comme on va le voir, puissamment. Le retour du Seigneur, c'est un jour terrible. Il est venu comme le Ben Yosef humblement pour nous sauver, plein de grâce et de miséricorde. Il va revenir pour juger cette terre. Et les prophètes nous parlent d'un jour absolument terrible. Vous pouvez lire Ézéchiel 38-39, le livre de Joël, le livre du prophète Sophonie, et craindre et trembler devant ces paroles. Parce que c'est un jour terrible qui vient. Et c'est pourquoi c'est le temps de le craindre. C'est le temps, de plus encore, de donner son cœur à Jésus. Oui, de lui donner son cœur, mais de marcher dans la crainte du Seigneur, de nous sanctifier encore jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, quand est-ce que le Messie reviendra? Jésus l'a dit clairement, Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors viendra la fin. La fin du temps des nations, la fin du temps de la grâce et la restauration de ce royaume et l'instauration de son règne. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne encore une parole dans Luc chapitre 21. Jésus dit au verset 20, Luc chapitre 21, verset 20 à 24, on va lire. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors sachez que sa désolation est proche. » Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Ça, c'est ce qui s'est passé. Le temple a été rebâti sous Esdras et Néhémie. Et Jésus est rentré dans ce temple, comme le dit le prophète Malachie. Et soudain, il rentrera dans son temple, le Seigneur, l'ange, le Messie que vous cherchez. Et il est rentré dans ce temple. Mais ensuite, alors que Jésus est venu, la parole de Dieu a commencé à sortir de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À travers Titus, l'empereur romain, le temple a été encore une fois détruit. Et, comme on va le lire, tous les Israélites ont été dispersés jusqu'aux extrémités de la terre. De la même manière que l'évangile du royaume s'est répandu par toute la terre, les Juifs ont été dispersés. Comme ils étaient partis en Égypte, comme ils étaient partis en Assyrie et à Babylone, ils sont partis jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez ce que Jésus dit. Soyons attentifs à sa parole, verset 24, Luc 21, 24, qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Parce que je crois que c'est un des versets les plus importants pour notre temps aujourd'hui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. C'est ce qui s'est passé quand Titus est venu assiéger Jérusalem et détruire le temple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. J'ai insisté tout à l'heure, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il avait dit, ils vont être emmenés captifs parmi toutes les nations, Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations, et c'est ce qui s'est passé. Israël n'était plus un peuple. Pendant 2000 ans, il y a divers royaumes, byzantins, ottomans, etc., qui se sont succédés sur la terre d'Israël. Et ils n'étaient plus un peuple. La terre d'Israël, vous voulez savoir, il y a quelques 150 ans, il n'y avait que quelques nomades qui vivaient. C'était un désert. C'était un désert. Et Israël a été persécuté, a été maltraité durant 2000 ans. L'antisémitisme, vous savez, c'est comme un virus mutant qui s'est adapté à chaque courant de pensée, à chaque civilisation, pour represser le peuple de Dieu. Et pendant que ce peuple a été jusqu'aux extrémités de la terre, la bonne nouvelle du royaume de Dieu a été annoncée à nous tous, parmi toutes les nations. Vous savez, si vous êtes à Jérusalem, ici à Pointis, c'est les extrémités de la terre. Et aujourd'hui, il ne fait aucun doute, en particulier après la réforme et toutes les missions qui ont suivi la réforme, que la parole de Dieu, elle s'est propagée partout. La Bible, elle a été traduite presque dans toutes les langues. Alors à moins de ne pas craindre Dieu, vous savez, et de chercher la petite bête et d'arriver à trouver une île déserte où la parole n'aurait pas été encore proclamée, c'est un fait aujourd'hui que l'Évangile a fait le tour de la terre. Et si on ne serait pas d'accord avec ça, eh bien le fait est, bien-aimé, que Israël a été ramené. En 1948, David Ben-Gurion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. En 1967, après avoir été attaqué par toutes les nations alentour, en 6 jours, digne des récits de la Bible, je répète, digne des récits de la Bible, pourrez-vous renseigner sur ce qui s'est passé dans la guerre des 6 jours. C'était impossible, même en 1948. Il y avait quelques kibbutz, on appelle ça, quelques communautés où il y avait 3 fois rien comme arme. Et il y a tous les pays arabes des alentours qui ont dit « Sortez !» Tous les arabes qui étaient sur la terre d'Israël, « Quittez le pays parce qu'on va jeter les juifs à la mer. » C'est les messages radio qui sont passés clairement. Et ce qui s'est passé pour que ce peuple arrive à se défendre en 48, pour garder son indépendance, c'est un pur miracle, digne de Gédéon face aux Madianites, comme vous le voyez, par exemple, dans Juges chapitre 7. C'est un vrai miracle qui s'est passé. Et vous voyez, Jésus dit, quel est le signe? Les Israélites, les Juifs vont aller parmi toutes les nations, la bonne nouvelle sera proclamée à toutes les nations, alors viendra la fin. Et le signe des signes, c'est que Jérusalem est restaurée, c'est qu'Israël est un État. Et un signe qui va encore plus loin, c'est cette haine montante contre Israël. Parce que les prophètes l'ont clairement expliqué, l'ont clairement dit que Jérusalem allait être une pierre pesante pour les nations. Et que tous ceux qui voudront la soulever seront meurtris. Vous lisez ça dans les livres de Zacharie. Il s'est passé encore des jours. Et moi, je suis écœuré de ce qui se passe. Vous avez peut-être entendu aux informations, j'aimerais pas aller dans les détails, mais on peut pas malheureusement aller dans les détails. Mais j'aimerais simplement vous dire qu'il y a une désinformation qui est, j'ose lâcher le mot, démoniaque. Qui est démoniaque. On fait passer Israël. Vous savez ce qu'on arrive à faire ? On fait passer Israël pour le grand Goliath, le grand méchant. On fait passer Israël pour un terroriste, alors que c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. On arrive, et je sais, et je vous le dis avec toute la compassion, avec des larmes, avec tout l'amour de mon cœur, parce que vous êtes, comme vous connaissez, je pense, Clément le Cossec, qui avait un cœur pour votre ethnie. Vous avez un destin commun avec Israël. Et on arrive aujourd'hui à dire qu'Israël est Hitler, à mettre le drapeau d'Israël avec une croix gammée. Mais c'est horrible, c'est démoniaque. C'est comme on le lit dans l'Apocalypse, ces esprits de ténèbres qui se liguent contre Israël. Et ces nations, comme vous le lisez dans le psaume 83 en particulier, retenez le psaume 83, qui se liguent et qui veulent exterminer Israël de la face de la terre. Et toutes les nations sont en train de se laisser, comment dirais-je, envenimé par ce venin du diable. Et vous savez pourquoi c'est le venin du diable? Parce que comme je viens de vous le dire, le but de Dieu, c'est le royaume. C'est d'instaurer son règne depuis Jérusalem, en Israël, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le diable, il veut détruire ce règne. Le diable, il ne voulait pas que le Messie vienne. Voilà pourquoi tous ces rois ont été entraînés à pécher. Et malgré tous les prophètes, en particulier le cœur de Jérémie qui criait à son peuple de ne pas pécher, ils n'ont pas voulu entendre et ils ont été, comme je le disais, par les Assyriens et les Babyloniens, ils ont quitté la terre d'Israël. Le diable pouvait taper des mains, croyant c'est fini, le Messie ne viendra pas. Parce que vous savez que Dieu est fidèle. S'il a dit que soudain il viendra dans son temple, qu'il marchera à Jérusalem, il n'allait pas sauver à Babylone mais à Jérusalem. Donc Dieu a dû restaurer son peuple sur cette terre, sous Esdras et Néhémie, pour que Jésus vienne. Jésus est venu, ça faisait partie du plan de Dieu. que Israël ne le reçoive pas en totalité, pour que s'ouvre le salut à tous les païens. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée, en même temps que ces Israélites étaient massacrés, comme le dit Ézéchiel 37. Massacrés. Mais comme le dit Ézéchiel 37, il a ouvert leur tombeau. Et de partout, Dieu les a ramenés sur leur terre. Malgré toutes les persécutions, malgré toute la haine, malgré la Shoah, ils ont été ramenés sur leur terre parce que Dieu est à même d'instaurer définitivement son règne. Ce qu'il a commencé à faire avec Adam et Ève lorsqu'il leur a donné une peau, symbole du sacrifice. Ce qu'il a fait avec Noé, ce qu'il a fait avec Abraham, avec les patriarches. Ce qu'il a instauré au travers de sa loi et du tabernacle pour nous instruire du salut en Jésus. Tout ça, c'était la préparation pour arriver à Jésus, qui est le but de la Torah, pour nous en faire comprendre son sens, pour qu'ensuite ce salut soit prêché à tous, pour enfin récapituler toutes choses, et enfin avoir la victoire sur toutes choses, et la victoire en particulier sur toute forme de mort, sur toute forme de terrorisme, sur toute forme de violence, et instaurer ce règne de paix. Et Dieu le fait. Dieu a ramené Israël. On va lire simplement une ou deux paroles qui vont, je crois, parler à nos cœurs, frères et sœurs. Dieu a ramené son peuple. Et ça, c'est le signe des signes. On l'a vu dans Luc 21-24. Je répète ce verset. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il continue à dire, il y aura alors des signes dans le soleil. On va terminer par lire ce verset. Et le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Comme il est monté aux cieux, il reviendra de la même manière, comme l'ont dit les anges. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de tremblements de terre. Et c'est vrai. Et il y en a de plus en plus. On parle de famine. On parle de beaucoup de catastrophes. On a eu le tsunami. On a eu ce qui s'est passé encore même dans notre pays, en Bretagne, les flots qui se sont élevés. On sait que dans la parole de Dieu, l'eau est un symbole du jugement. Mais ça, Jésus dit que ces choses, il le dit avant dans Luc 21, ces choses, il y en a toujours eu. Et elles arriveront toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles s'intensifient. Parce que comme dit Jésus, on est rentré dans les douleurs de l'enfantement. Il a dit qu'on entendrait parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais que ça ne serait pas encore la fin. On a eu deux guerres mondiales. Ça, c'est sans précédent. Jamais ça a été aussi terrible, aussi violent. Ces choses, je crois que c'est tout de même des signes qu'ils avancent, qu'ils s'amplifient. Et vous allez encore entendre parler de tremblements de terre. Vous allez encore entendre parler de catastrophes, parce que c'est Dieu, dans son amour. Vous savez, les jugements de Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant de colère. Les jugements de Dieu sont son amour. Les jugements de Dieu sont sa miséricorde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chute, c'est quelque chose de terrible. La chute, c'est quelque chose de terrible. Et on va mourir, on va être éternellement séparés de Dieu si on ne se réveille pas, comme le dit l'apôtre aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Et le Messie t'illuminera. S'il ne se passe pas ça dans nos cœurs, on est fichu pour l'éternité séparés de Dieu. Vous voyez ? Et ces quelques années qu'on a sur la terre, c'est rien par rapport à l'éternité. Alors Dieu, dans ses jugements, essaye de réveiller tous les hommes de la terre en ébranlant un peu sa création pour les réveiller et qu'ils puissent se tourner vers lui. Alors les signes s'amplifient, mais le signe des signes, c'est ce retour sur la terre d'Israël, cet état qui est là sous nos yeux. C'est le signe et cette haine qui va s'amplifier envers Israël va marquer la fin de toute chose, où toutes les nations vont se liguer contre Israël. Vous savez, Israël, c'est le pays qui a eu le plus de résolutions contre elle de la part de l'ONU. Des fois, quand moi je suis de près ce qui se passe au Proche-Orient, on est écœuré, on est dégoûté quand on sait ce qui se passe. Il y a une haine qui se déchaîne. Et la Bible nous parle, vous avez entendu parler d'Armageddon, cette dernière bataille de la fin où les nations viendront contre Israël. Certainement, dans quelques temps, vont peut-être être obligés de sortir de l'ONU parce que ça devient irrationnel, vous voyez. Ce qui se passe, cette haine d'Israël, on n'arrive même plus à la comprendre. On ne comprend pas comment c'est si tordu, si perverti. Mais c'est le diable. Et le diable, il ne veut pas que le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, qui est un royaume d'amour, puisse s'étendre sur cette terre. C'est pourquoi, pourtant, Jésus est venu. Je vais essayer de conclure rapidement je vous lirai encore deux paroles qui concernent Israël. La première, c'est dans Jérémie 31, versets 8 à 14. Écoutez ce que le prophète Jérémie a prophétisé il y a environ 2500 ans. Il a dit ceci. « Voici, je les ramène du pays du Septentrion. » C'est le nord, de tout ce qui est la Russie, tous les pays du nord. C'est exactement ce qu'on a vu sous nos yeux depuis un siècle, depuis le siècle dernier. C'est le signe des signes que le Seigneur revient bientôt. « Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. » Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni, c'est Jésus qui est le chemin et qui va les garder, ce bon berger comme on l'a chanté tout à l'heure, où il ne chancellera pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël sur toute la face de la terre pour que cette bonne nouvelle soit prêchée, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Comme le dit le prophète Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Et cette prophétie, ô combien, elle est aussi d'actualité. « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Frayez un chemin à l'Éternel qui vient. » Comme dans Ézéchiel 37, il a été ramené sur sa terre. Et maintenant, c'est le signe que l'Éternel vient dans sa colère pour juger tous ceux qui se seront opposés à ce royaume dans nos cœurs. De ne pas mourir à notre égoïsme, à notre orgueil, pour laisser la vie, le repos, la guérison, l'amour de Jésus venir dans nos cœurs et son règne de paix. Comme le disait notre pasteur tout à l'heure, on a la paix quand on lui appartient. Tous ceux qui n'auront pas voulu appartenir au Seigneur, eh bien, ils seront sous sa colère. Et pareillement, tous ceux qui se seront ligués contre Israël, qui va être la pierre de touche de la fin des temps, seront aussi jugés par l'Éternel. Le prophète Osée dit « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. » On a vu que depuis leur retour à Babylone, ils n'avaient pas de roi. Et c'est tout ce qu'ils ont attendu. Ils resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans mémorial, sans éphode et sans théraphime. C'est ce qui leur permettait de consulter Dieu. Mais après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Et vous savez qu'ils vont être obligés de le chercher de plus en plus. Avec cette haine, cette pression qui augmente sur Israël, ils vont être obligés de se tourner vers Dieu. Ils pourront même plus se confier dans leur armée, dans leurs armes, mais plus qu'en Dieu. Ils crieront, et comme on le lit en particulier dans le prophète Zacharie, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Et un esprit de grâce et de supplication va être donné à chaque maison. Ça veut dire, un par un, ils se tourneront vers Dieu. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et comme le dit Paul aux Romains, il viendra de Sion et il rachètera Jacob. Le libérateur viendra de Sion et il ôtera de Jacob ses impiétés. Et ce sera comme une résurrection. Et on sera unis avec eux pour rentrer dans ce règne du Messie. Vous savez, je vous lirai encore cette parole d'Ézéchiel 36 pour vous dire une chose. Ce qui se passe, c'est le miracle des miracles. Dieu qui a ramené son peuple sur sa terre. Et ça doit nous amener à craindre Dieu, à craindre son nom. J'aime Israël du plus profond de mon cœur, parce que j'aime Dieu, parce que j'ai conscience de ce destin commun aussi que vous avez eu avec Israël. Et ce n'est pas une chose superficielle, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de profond. Mais parfois, il y a des gens qui ont, vous savez, un amour pour Israël peut-être un peu déconnecté de la réalité, comme superficiel. Dites-vous bien que si on aime Israël, c'est parce qu'on aime Dieu, et ce qui se passe pour Israël, c'est pour Dieu, c'est pour le nom de Dieu. Et on lit ça dans Ézéchiel 36, verset 22. « C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël et à nous tous ce soir, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. » Parce que oui, ce nom de Dieu n'a pas été sanctifié. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Et comment le nom de Dieu est sanctifié, ça veut dire mis à part, élevé, glorifié parmi toutes les nations. Comment il l'est? Parce que Dieu ramène son peuple. Et ça, on doit en avoir conscience, bien-aimé. Et c'est ce qu'il dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Alors, bien-aimé, j'aimerais terminer maintenant en vous disant que si ces signes sont là, ce signe est là. On attend et on se prépare. Alors qu'ils ont été ramenés d'Égypte et que la Torah a été donnée pour en arriver au roi d'Israël et à David qui a étendu ce royaume. S'ils sont partis de Babylone, qu'ils sont revenus sur leur terre pour que Jésus vienne. Maintenant qu'ils ont été dispersés pendant 2000 ans parmi toutes les nations, il n'y a pas une seule nation qui a pu renaître comme Israël a pu renaître. Ils avaient perdu toute identité au niveau territorial. Ils avaient gardé leur identité grâce à la Torah, mais ils n'avaient plus de terre. Ils ne parlaient même plus hébreu, sinon dans leurs prières. Aujourd'hui, vous allez en Israël, tout le monde parle hébreu. Je pourrais vous lire combien de prophéties qui parlent que le désert va reverdir, que les villes vont être construites. Et tout ça, parce qu'on est dans le péché, séparé de Dieu, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu l'a fait sous nos yeux ces dernières années. Et ça, ça doit nous amener la crainte de Dieu, nous ramener profondément à ce Seigneur et à savoir que là, maintenant, il est vraiment à la porte. Il est vraiment à la porte. Et c'est ce que j'aimerais terminer par vous dire ce soir. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent simplement dans notre cœur. Vous voyez, de la même manière que je ne suis pas pour dire à la légère, Jésus est mort pour toi, alléluia. Parce que ce Dieu de gloire, Yehoshua, qui est venu souffrir à notre place, c'est quelque chose qu'on peut recevoir qu'avec révérence. Il n'y a que là que nos vies vont vraiment être changées. De la même manière, on ne peut pas dire à la légère, le Seigneur revient bientôt. Il y a une souffrance là derrière. Il y a ces douleurs de l'enfantement. Et cet enfantement, c'est ce royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il va venir sur les nuées. Il va revenir dans sa gloire pour instaurer son règne. Alors, où te trouves-tu ce soir? Est-ce que tu appartiens vraiment à Dieu? Est-ce que cette paix de ce règne messianique, elle est déjà dans ton cœur ou pas? Parce qu'il faut que tu saches que s'il vient pour instaurer son règne de paix, tous ceux qui auront été rebelles, orgueilleux, tous ceux qui ne lui appartiendront pas, vont être terrassés. Ce jour, c'est la colère de Dieu. Vous savez, si on pouvait savoir, et pour ça, j'aimerais nous exhorter, nous tous qui appartenons au Seigneur, à connaître le lieu secret, à connaître la prière, à faire de nous des hommes et des femmes consacrés à Dieu, qui cherchent sa face, qui étudient la parole de Dieu, qui connaissent les prophéties, qui connaissent qu'est-ce que nous dit Sophonie dans son livre. Si on disait maintenant que tout le monde se lève et donne un témoignage, qu'est-ce que dit Sophonie dans son livre? Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre nous, on ne sait même pas ce que Dieu dit au travers du prophète Sophonie. Et pourtant, il dit des choses capitales. Tous les prophètes, je crois, que c'est le temps que nous puissions les lire, les étudier avec crainte. C'est le temps de la crainte de Dieu. Le temps de la grâce touche à sa fin. Comme le dit Jude, on doit en arracher encore quelques-uns au feu, vous voyez. Bien sûr qu'on est appelé à sauver les gens. Mais je crois, parce que je vois que le temps passe et je n'aimerais pas vous retenir plus longtemps, je ne développerai pas ce que j'avais prévu pour terminer, mais je vous dirai simplement, je crois qu'en tant qu'Église, ce qu'on a à manifester, c'est le vrai conseil de Dieu. Et le vrai conseil de Dieu, c'est justement cette fresque de l'histoire. Ce Dieu qui était, qui est et qui vient. Ce Dieu d'Israël. Il n'y a que là qu'on plantera la crainte de Dieu dans les gens. Et qu'on ne leur parlera pas simplement par rapport à leur cœur, par rapport à leur souffrance, mais par rapport à Dieu, par rapport à Dieu qui vient. Et que l'Église puisse être unie pour annoncer ce conseil de Dieu au monde. Et si vous annoncez ce conseil de Dieu au monde, et si on parle des temps dans lesquels on vit, qui sont historiques, qui sont réels, ce règne de Dieu, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une fable. De la même manière que Jésus n'est pas une fable. Jésus, il a vraiment été conçu du Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Il a marché sur la terre d'Israël en faisant plein de miracles, en ressuscitant même des morts. Quand il est mort à la croix, il y a eu des ténèbres. Jésus, c'est pas simplement, oui, c'est un ami, mais c'est pas simplement un ami à la légère. C'est le Fils du Dieu vivant. Quand il est ressuscité, il y a le tombeau qui a explosé. Il a manifesté sa puissance. L'évangile de Matthieu nous dit même qu'il y a des gens qui sont ressuscités à Jérusalem. Lisez la fin de l'évangile de Matthieu. C'est un Dieu de gloire. Quand il est monté dans sa gloire, il est rentré dans son règne, dans la majesté divine. Apocalypse 4 nous parle du trône de Dieu et il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Le royaume des cieux, ce n'est pas une fable. J'aimerais parler peut-être à tous ceux qui ne sont pas à Christ, qui ne sont pas dans le Seigneur ce soir. C'est le temps, comme dit Ésaïe au chapitre 55, invoquez-le pendant qu'il se laisse encore trouver. C'est le temps de lâcher nos iniquités. Vous savez, l'apôtre Jean dit, le monde passe avec sa convoitise. L'orgueil de la vie, ces choses semblables. Et si on aime encore le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas dans nos cœurs. Il est temps de revenir à lui, de se tourner vers lui, parce que ces temps qui viennent, c'est réel. Dieu, c'est un Dieu vivant. Son règne, ce n'est pas une fable. Quand il va venir sur cette terre, il va instaurer son règne. Ce règne messianique, il vient, et ce n'est pas une fable. Et il faut que le peuple de Dieu se réveille, craigne le Seigneur, se rende compte que le Seigneur Jésus, quand il va venir sur cette terre, Jésus nous dit, notre ami qu'on chante parfois fidèle et tendre, l'Apocalypse nous dit qu'il a des yeux de feu, que ses pieds sont d'airain, qu'il a une verge dans la main et qu'il va venir régner sur cette terre, qu'il va détruire tous les rebelles, qu'il va détruire la terre avec toutes ses œuvres. L'apôtre Pierre nous dit que ce monde est réservé pour le feu. Peut-être que j'en choque quelques-uns, mais c'est la parole de Dieu que je vous prêche du cœur de Dieu. Le Messie revient et c'est des jours terribles et il est temps de se jeter sur Jésus. Jésus dit que les étoiles vont tomber du ciel, que la lune se changera en sang et il reprend des paroles des prophètes. Il ne faut pas attendre que ça tremble, frères et sœurs, pour se tourner vers Dieu, parce que là peut-être que ce sera trop tard. C'est le temps favorable, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps de craindre Dieu, de chercher sa face, de se jeter sur lui, de lâcher nos iniquités, de couper notre main si elle nous fait pécher, d'arracher nos yeux s'ils nous font pécher, de sanctifier nos cœurs. Et ceux qui sont attristés, de se sanctifier encore dans la crainte de Dieu. Ce règne messianique, comme l'a été toute l'histoire d'Israël, c'est quelque chose de réel. Vous allez voir la terre trembler. Je ne sais pas si vous avez vu les images en Haïti, mais moi j'étais à genoux, en pleurs, parce que les prophètes nous disent qu'il va y avoir un tremblement de terre, l'Apocalypse le dit aussi, quand le Seigneur va revenir, la terre va trembler, les hommes rendront l'âme de terreur au vu de ce qu'il vient sur la terre. Ils demanderont aux montagnes de se jeter sur eux, vous vous rendez compte? Tellement ils seront terrorisés par la colère de l'agneau, comme le dit l'Apocalypse, vous voyez. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, ça veut dire tout le monde, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, qui pourra subsister? Bien-aimé, je ne crie pas parce que je suis un fou. Je crie parce que je vous aime. Je crie parce que j'aime le Seigneur. Et qu'on a besoin en tant qu'Église de vraiment prendre conscience de ces choses. J'espère que vous n'êtes pas choqués par ces cris que j'avais pas prévu, bien sûr, de faire. Mais c'est le temps de chercher Dieu. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Il s'est révélé à Moïse et il vient bientôt. Il est temps de sanctifier nos cœurs. On ne peut plus attendre. Dieu nous veut avec lui. C'est pas... Comment dirais-je? Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu, il est saint. On a péché, on est dans la désobéissance. Et ce Dieu, il nous crie, alors qu'il est encore temps, « Revenez à moi, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Alors je pardonnerai vos péchés. Je vous laverai de toute iniquité. Et ceux qui sont à lui, sanctifiez-vous encore. » Je voudrais vous exhorter encore à l'humilité ce soir. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Soyons humbles les uns avec les autres devant Dieu. Laissons vraiment Jésus venir régner dans nos cœurs. Faisons-nous tout petits. les cantiques de Marie, d'Anne, ils nous parlent que Dieu, il abaissera tout ce qui est élevé. Il abaissera tout ce qui est élevé. Alors faisons-nous tout petits devant ce Dieu qui alors nous élèvera avec lui dans son règne. Et si vous voulez bien, courbez vos têtes pour clôturer par la prière et une parole de Dieu. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.